RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et le magazine musical. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs britanniques du monde entier, voici le journal aujourd'hui. À l'âge de 100 ans d'indépendance de la Roumanie, la coopération bilatérale entre la Roumanie et l'Indonésie peut être renforcée. L'ambassadrice de Roumanie en Indonésie, Valerika Epure a exprimé son espoir à la commémoration de la fête nationale de la Roumanie vendredi à Jakarta. Selon l'ambassadeur, l'un des moyens d'améliorer la coopération entre les deux à travers la formation de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne ou CEPA. Il souhaite que la discussion de l'accord puisse être achevée prochainement afin que les deux parties puissent ouvrir de nouvelles opportunités de coopération économique. Nous espérons que les négociations relatives à un accord de partenariat économique global ambitieux et substantiel entre l'Indonésie et l'Union européenne, ou les CEPA, pourront être résolues dès que possible, afin de créer de nouvelles opportunités de coopération économique pour toutes les parties. Il y a beaucoup d'opportunités pour notre coopération bilatérale et nous pouvons renforcer la coopération, y compris dans le domaine de l'environnement, de la gestion des catastrophes, du développement durable dans les domaines de l'économie, des technologies, de l'information, de la transformation et du tourisme. Outre la coopération commerciale qui a augmenté de 10% en 2017 par rapport à l'année précédente, l'ambassadrice Valerika Epure a également déclaré que l'Indonésie et la Roumanie collaboraient également dans le cadre de la coopération internationale, entre autres dans l'adhésion à l'ONU. Selon l'ambassadrice, les deux pays encouragent la création de la paix, l'application du droit international, le respect mutuel, le dialogue et le multilatéralisme. La Roumanie s'est également engagée à soutenir l'Indonésie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019 à 2020. L'ambassadrice du Liban en Indonésie, Mona El-Thani, a déclaré que le Liban souhaitait renforcer sa coopération avec l'Indonésie dans le domaine économique. Cela est mis au point de son intention depuis ses fonctions en Indonésie. Cela a également été réalisé en signant plusieurs accords avec le ministère des Affaires étrangères. Depuis mon arrivée en Indonésie, j'ai travaillé dur pour établir et activer les relations bilatérales entre les deux pays. Nous nous concentrons maintenant sur l'économie et l'ouverture du marché libanais à l'étranger, notamment en tant qu'ambassadeur du Liban à l'étranger et en tant qu'ambassadeur du Liban auprès de l'ASEAN à Jakarta. Je travaille pour augmenter les exportations et les importations à provenance de et vers le Liban, d'Indonésie vers le Liban, de Liban vers l'Indonésie, ainsi que d'accords que nous avons négociés avec le ministère indonésien des Affaires étrangères. L'ambassadrice du Liban a ajouté qu'en plus d'intensifier la coopération économique, le Liban souhaitait renforcer la coopération en matière de tourisme avec l'Indonésie. Elle espère que les touristes des deux pays se rendront visite mutuellement. L'ambassadrice libanaise a également exprimé sa gratitude pour l'assistance de sécurité fournie par l'Indonésie en présence de TNI au Liban. TNI au Liban peut bien coopérer avec les forces de sécurité libanaises afin de créer une stabilité de sécurité dans le pays. Après avoir été officiellement élu président des cités et gouvernements locaux unis en septembre, le maire de Surabaya, Tri Risma Hari Ini, a effectué sa première tâche comme président des cités et gouvernements locaux unis, ou CGLU, en se rendant au pays nord-coréen. Comme l'a écrit République Online, M. Fixer, responsable des relations publiques de la ville de Surabaya, Java Oriental a affirmé que le but et l'objectif de Tri Risma Hari Ini se sont réunis en Corée du Nord, entre autres pour grandir le pays et promouvoir le dialogue local à local. Fixé a déclaré que la visite de Tri Risma Hari Ini en Corée du Nord était commencée du 26 novembre au 1er décembre. Selon lui, pendant son séjour en Corée du Nord, Risma mènera de nombreuses discussions sur les activités proposées par la Corée du Nord, en particulier dans le domaine de la planification urbaine durable afin de garantir un logement adéquat, des systèmes de transport en commun sûrs et accessibles, la protection sociale, la gestion environnementale et la culturelle des zones urbaines, des banlieues et des villages, tout en préservant le patrimoine culturel et naturel et en réduisant les mauvais impacts de l'environnement de la ville. La ville de Batu Malang, Java Oriental, organisera le Festival national du café pour la première fois le 13 au 15 décembre. Ce festival offrira des opportunités d'exportation pour les produits de café local, en particulier ceux de la ville de Batu. La présidente du comité du Festival national de café, Desi Yumnasari, a déclaré mercredi dans la ville de Batu que le Festival national du café réunirait des baristas de différents pays. En outre, des participants étrangers viendront avec des délégations d'affaires pour explorer l'achat de café local dans la région de Batu. Desi Yumnasari espère que le Festival du café réunira les producteurs de café locaux qui peuvent interagir avec des visiteurs étrangers et promouvoir leurs produits. Grâce à cette interaction, il devrait offrir des possibilités d'exportation de café de la ville de Batu vers le marché international. Ces auditeurs d'ITIS, c'était notre journal aujourd'hui.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les envois de l'Indonésie, un programme qui présente diverses envois intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une demi-semaine. Le premier envoi vient de Banyuwangi, Java Oriental. 15 agences de voyage et 6 médias malaisiens ont visité plusieurs attractions touristiques de la région de Banyuwangi du 27 novembre au 1er décembre. La visite a eu lieu avant l'ouverture du vol international Kuala Lumpur-Malaisie Banyuwangi-Java Oriental le 19 décembre. Nurdian Shah, le directeur adjoint de l'exposition pour l'Asie du Sud-Est au ministère du Tourisme à Banyuwangi, a déclaré vendredi que la visite a été facilitée par le ministère des Affaires étrangères par l'intermédiaire du consulat général de la République d'Indonésie, ou KJRI à Johor Bahru, et du ministère indonésien du tourisme. À Banyuwangi, ils ont visité entre autres la place de Plengkung ou Jelan, qui possède des vagues de surf de classe mondiale, Bansring Underwater, l'île de Tabuhan et profite du tourisme artistique et culturel de Banyuwangi. Selon l'audience, le vol direct augmentera le nombre d'arrivées de touristes malaisiens en Indonésie. Cette année, le ministère du Tourisme cible 2,7 millions de touristes en provenance de Malaisie. Jusqu'en septembre, 1,9 million de touristes malaisiens se sont rendus en Indonésie. Les envois suivants sont venus de Kayon du Nord Kalimantan occidental. La région de Kayon du Nord, Citra Douani, a représenté le village de Sutra, a reçu le prix du ministère du village comme le meilleur village de la catégorie indice de construction du village à Jakarta jeudi. Citra a déclaré que le prix de la catégorie IDM signifiait que le gouvernement du village de Sutra avait construit sa région dans la bonne direction, que ce soit économique, social ou environnemental. Après avoir reçu le prix de chef, le chef du village de Sutra, M. Ripahi, a déclaré que le village de Sutra a reçu le prix par le changement de statut du village développé au village indépendant. Le village situé au centre de la capitale de la résidence est bien meilleur que tous les autres aspects tels que l'infrastructure de services de santé de base communautaire. Il y a déjà les médecins, les infirmières et les sages-femmes. Le village de Sutra possède tous les niveaux d'éducation et le distance à l'école est très proche. La communauté peut profiter de services de communication, de données de téléphone à la maison, internet et la télévision interactive avec la technologie IPTV. Les derniers envois sont venus du nord de Kalimantan. Cette année, 80 points gratuits de Wireless Fidelity Wi-Fi sont installés dans toute la province de Kalimantan Nord. Toute la Wi-Fi est gérée par le gouvernement provincial de Kalimantan du Nord, par le Bureau de la communication et des informations, en collaboration avec l'opérateur de la télécommunication nationale PT Telecom. Sur les 80 Wi-Fi gratuites, 51 d'entre elles ont été installées dans les lieux publics, tels que des hôpitaux, des ports, des parcs et des mercés. Le gouverneur de Kaltara, Irianto Lambré, a déclaré jeudi que l'installation de la connexion Wi-Fi gratuite avait pour but d'encourager le développement de la connaissance de la communauté et stimuler la croissance de l'économie numérique. Le réseau Internet destiné aussi aux lycées afin de soutenir la mise en œuvre de l'examen national informatisé. Ces auditeurs de TIS, c'était notre émission avec les infos de l'Indonésie. À la semaine prochaine.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 1er décembre. Nous commençons par le cas où Muhammad Hatta a démissionné de son poste de vice-président de la République d'Indonésie. Muhammad Hatta ou Bung Hatta était le combattant, l'homme d'État, l'économiste et le premier vice-président indonésien. Avec le premier président de la République d'Indonésie, Soekarno, il a joué un rôle important en libérant le peuple indonésien du colonialisme hollandais et en proclamant l'indépendance du pays le 17 août 1945. Hatta est également premier ministre. Le 1er décembre 1956, Hatta démissionna de ses fonctions de vice-président de la République d'Indonésie en raison d'un différend avec le président Soekarno. Ensuite, la signature d'un traité sur
l'Antarctique. Le continent Antarctique est le dernier continent découvert par l'homme. Il y a beaucoup de nations qui veulent contrôler ce continent. C'est pourquoi l'accord sur l'Antarctique a été signé le 1er décembre 1959. Cet accord stipule que l'Antarctique sera utilisé à des fins pacifiques, de sorte que tout ce qui a trait à l'armée, comme la construction de bases militaires, l'entraînement à la guerre et la tentative d'utilisation de tout type d'armes, est interdit sur place. En outre, l'accord sur l'Antarctique définit également le continent à des fins scientifiques. Les scientifiques doivent fournir des informations ouvertement aux autres scientifiques. Ils peuvent entrer librement dans toute la région antarctique. Les ressources biologiques de cet endroit seront protégées ensemble. L'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Chili, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, l'Irlande Nord et les États-Unis ont accepté cet accord. Le dernier, la Journée mondiale du sida. La Journée mondiale du sida a été créée en août 1987 par James W. Boone et Thomas Netter, deux officiers de l'Organisation mondiale de la santé ou de l'OMS à Genève en Suisse. Ils ont exprimé cette idée au président d'ONU SIDA, un comité mixte du programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA, le docteur Jonathan Mann. Docteur Mann aima l'idée de la journée du sida et décida d'organiser la première journée du sida le 1er décembre 1988. Les élections du 1er décembre furent initiées par Boone. Il a estimé la date qui pourrait attirer l'attention des médias américains qui ont d'ailleurs organisé des élections générales en 1988. Bien que pionnière depuis la fin des années 1980, l'ONU SIDA a lancé la nouvelle Journée mondiale du SIDA en 1996. Cette journée a commencé à être utilisée pour promouvoir les dangers et les moyens de prévenir le SIDA. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Indonesiaku untuk hari Sabtu, tanggal 1 décembre. Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en petit titre, le gouvernement affirme sa protection contre le PME. Le gouvernement indonésien a finalement décidé de renvoyer les 5 secteurs d'activité auparavant exclus de la liste négative d'investissement DNI. DNI est une liste de secteurs d'activité dans lesquels les investissements étrangers ne peuvent pas entrer. Les 5 secteurs d'activité précédemment inclus dans le groupe étaient réservés aux micro, petites et moyennes entreprises, soit MPME, et aux coopératifs ainsi qu'aux groupes nécessitant des partenaires. Cela a été annoncé par le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Darbin Nasution, à Jakarta, mercredi le 28 novembre. Précédemment, dans le 16e paquet de politique économique annoncé il y a quelques jours, le gouvernement prévoyait de renvoyer 54 domaines d'activité de la liste des investissements négatifs dans le programme d'assouplissement de la liste négative des investissements. Selon Darmin Nasution, le président Joko Widodo a demandé que ces 5 domaines relatifs au MPME soient exclus de la liste négative des investissements DNI. Les 5 domaines d'activité sont le décapage et les tubercules, l'industrie de l'imprimerie, les tricots, en particulier la dentale, les cybercafés et le commerce de détail par la commande postale et sur Internet. Avec l'exclu des 5 secteurs d'activité, 49 entreprises restantes devraient être exclues de la liste négative des investissements et peuvent recevoir des investissements nationaux, PMDN, et d'investissements étrangers, PMA. Le président Joko Widodo a déclaré mercredi lors de la clôture de la réunion nationale des dirigeants de la Chambre indonésienne du commerce, Kadin, à Solo, Jawa Central, qu'il avait décidé d'entrer de nouveau les 5 domaines du DNI après avoir communiqué et écouté les aspirations des rangs de la Chambre du commerce et de l'industrie et l'Association indonésienne des jeunes entrepreneurs. Le président a souligné que la base de cette politique était l'engagement du gouvernement envers les micro, petites et moyennes entreprises, MPME. Le président a reconnu que la contribution des MPME à l'économie indonésienne était très grande. À l'heure actuelle, environ 62 millions de MPME absorbent 116 millions de travailleurs. Cela signifie que plus de 80% de la main-d'œuvre indonésienne est absorbée par les MPME. Selon le président Joko Widodo, la contribution des MPME au produit intérieur brut de l'Indonésie a atteint 60%. Cependant, Rosan Perkasa Ruslani, président général de Kadin, a déclaré que Kadin avait apprécié la décision du président. Selon lui, la politique de relaxation de DNI concernant les MPME a provoqué de nombreuses interprétations, provoquant des troubles parmi les acteurs du monde de l'entreprise. Les opérateurs économiques craignent que le secteur des MPME peut être ancré par 100% des capitaux étrangers. Chers amis, c'était mon Indonésie. Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec Le Magazine Culturel, visitant Malang en province Javaès pour profiter la fraîcheur de la source d'eau Jenon. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. La ville Malang est une attraction très tentante pour les touristes. Bien qu'elle soit située dans un lieu isolé, cette attraction touristique possède une beauté naturelle exotique. La source d'eau Jenon, c'est le nom d'un lieu touristique récemment visité par de nombreux touristes. La source d'Ojenon est une source située au village Gunung Ronggo, district Tajinan, en Régence Malang. Cette source a une belle clarté d'eau, turquoise et très exotique, en particulier lorsque le soleil brille à la source. La source d'Ojenon a des profondeurs variables, allant de 1,5 à 4 mètres. À cette source d'eau se trouvent des poissons d'eau douce et des poissons sangkaring qui rendent cette source Jenon plus belle. Dans la partie orientale de l'étang, il y a un grand arbre tombé et âgé de plusieurs centaines d'années, ce qui ajoute à l'exotisme de la source d'eau Jenon. La source d'Ojenon est située à environ 20 km de la ville Malang. Si vous utilisez un véhicule privé, vous n'avez besoin que 45 minutes pour y aller. Depuis la ville Malang, vous pouvez immédiatement prendre la route qui mène à Gadang Bululawang. En arrivant à l'embranchement du marché Bululawang, il y a une direction pour Tajinan. Suivez la direction au village Gunung Ronggo. Au village Gunung Ronggo, cherchez une grande statue de poisson sangkaring sur le côté droit de la route, car c'est là que se trouve la source d'eau Jenon. Pour entrer, vous n'avez pas besoin de payer le billet d'entrée. Vous n'avez qu'à payer pour le stationnement des véhicules de 5000 rupiah. Après avoir garé le véhicule, continuez sur 50 mètres jusqu'à la source d'Ojenon. Une fois que vous atteignez votre destination, vous serez certainement surpris par ce qui est présenté ici. La source d'eau est si claire et on voit le poisson sangkaring traverser la piscine. L'eau est tellement froide. L'atmosphère à la source d'Ojenon est si confortable et si belle, surtout qu'il y a de grands arbres autour de la piscine pour que le soleil ne pique pas immédiatement nos corps. Parce qu'il comprend des piscines naturelles, il est recommandé à ceux qui ne sont pas doués en natation de ne pas nager ou jouer à l'eau dans cet étang. Vous pouvez louer des pneus en caoutchouc de la taille de votre choix en payant 5000 à 7000 rupiah. Des installations sous forme de salles de prière, de salles de bain ou de salles de lavage et de toilettes sont également disponibles ici. Il y a aussi des stands de nourriture. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur en formant sur Festival Lovely December 2018, soit le Festival Aimable Décembre 2018. Ce mois de décembre, le gouvernement de la région Toraja Nord organisera le Festival Aimable Décembre 2018. Il s'agit d'un événement annuel initié par l'ancien gouverneur de Sulawesi Sud, Syahrul Yassin Limpo. Ce festival présente les différents potentiels des arts et de la culture de Toraja sous forme d'attractions artistiques et culturelles. Le Festival Aimable décembre 2018 se déroulera pendant 16 jours, du 13 au 29 décembre 2018. L'événement, qui est inclus dans 100 événements de magnifique Indonésie 2018, a préparé 8 festivals qui célébreront ce festival annuel. Le premier est le festival Kandean Dulang, qui se tiendra du 13 au 15 décembre au monument Kandean Dulang et au centre d'art Rantepau. Le festival Kandean Dulang mettra en vedette divers arts spéciaux de Toraja qui seront également équipés d'expositions sur le café, la nourriture et les arts traditionnels et seront clôturés par des spectacles musicaux. Le Festival Aimable Décembre 2018 sera ouvert lors de la cérémonie de clôture du Festival de Kandean Dulang qui aura lieu le 15 décembre 2018. La série de programmes du Festival Aimable Décembre 2018 se poursuivra en décembre 2018 avec le Festival de la Montagne qui se tiendra le 15 et 16 décembre 2018 à Batutu Monga. Le prochain ordre du jour prévoit 3 festivals qui se dérouleront dans la région touristique Kete Kesu, à savoir la Nuit des Arts et de la Culture, le Festival du Café et le Festival du Tissage. Les 3 événements auront lieu du 19 au 22 décembre. Kete Kesu est une attraction touristique située dans la célèbre quartier de Tanah Toraja car elle permet de voir directement les coutumes et la vie traditionnelle de Toraja. Dans cette zone, vous pouvez également trouver des vestiges antiques sous la forme de tombes en pierre dont on estime qu'elles ont plus de 500 ans. Den Pinang Sipulung sera également au centre du Festival Aimable Décembre 2018 qui se tiendra dans le district d'Ende Piongan Napo les 27 et 28 décembre. Procédez ensuite à la célébration de Noël Oikumene au terrain Bakti dans le district Krantepau le 29 décembre 2018. L'événement marquera également la clôture du Festival Aimable Décembre qui se tiendra au même endroit que le Festival des Feux d'Art Pyrotechnique. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les chansons indonésiennes. Merci à tous. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi Tiwi dans la rubrique du magazine musical. L'édition du magazine musical aujourd'hui va vous présenter des chansons de Indah Dewi Pertiwi. Restez avec nous à www.voinews.id ou à 3325 kHz ou par l'application de RRI Play. Pour commencer notre rencontre, je vous donne la chanson intitulée Baru aku tahu cinta itu apa, qui signifie en français Je viens de savoir ce que c'est l'amour. Bonne écoute. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Indah Dewi Pertiwi dont le titre est Baru aku tahu cinta itu apa, ou en français Je viens de savoir ce que c'est l'amour. Cette chanson marque le début de la belle carrière d'elle dans le monde du divertissement, en particulier celui de la musique indonésienne. C'est la chanson principale de son premier album intitulé Hypnotis, ou en français « Hypnotique », sorti en 2010. Depuis 2010, Indah a lancé plusieurs albums, entre autres « Hypnotis » en 2010, « Teman Terindah » en 2012 et « Déjà Fou » en 2015. L'album de « Hypnotis », qui a 12 chansons, se sont vendus à plus de 2 millions d'exemplaires. Chers auditeurs, écoutons ensuite une chanson intitulée « Cintamu adalah takdirku » ou en français « Ton amour est mon destin ». Cette chanson est chantée par Indah Dewi Pertiwi featuring Tengku Wisnu. Bonne écoute!
Demi Tuhan hatiku langsung jadi milikmu. Pertama ku bertemu,
sungguh mati cintaku, sudah inginkan kamu menjadi kekasihku. Untukku saja
cintaku ada. Selama hidupku, aku yang paling mampu selamanya di sisimu sampai aku mati.
Voilà la chanson s'intitule « Cintamu adalah takdirku » ou en français « Ton amour est mon destin ». Cette chanson a été chantée par Indah Dewi Pertiwi avec Tengku Wisnu, qui est plus connu comme acteur de feuilleton indonésien. La chanson qui parle d'une croyance de l'amour devient la bande originale de feuilleton intitulé « Cinta Fitri », un drame continu diffusé par une chaîne de télévision privée en 2010. Ce single, publié le 13 mai 2010, est également une chanson de l'album The Hypnotic. Chers auditeurs, ensuite, je vous donne deux chansons intitulées Hypnotis ou en français Hypnotique et Gejolak Cinta ou en français Fluctuation de l'amour. La chanson intitulée Gejolak Cinta a été chantée par Indah Dewi Pertiwi avec Sandy Sandoro. Ces deux chansons terminent également notre édition cette fois-ci. Bonne écoute et au revoir.
Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
Mau-maunya.
Diciumin kamu, mau. Diduain juga, mau. Dicuekin juga, mau. Kamu janji ini, mau. Kamu beri itu, mau. Dibohongin juga, mau.
Mau-maunya aku.
Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
Mau-maunya
aku.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/FRENCH ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan? yang sedang mencoba buramkan dunia nyata. Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan yang seringkali terlupakan oleh manusia.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Dan ia berkata, sana.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.